cruel de l'esclavage pour que son peuple le serve. Et Pharaon aussi s'entête. Et Joël va nous parler de tout cela. Le verset 28. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel. » Répète à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Me voici avec des lèvres malhabiles. Comment le Pharaon m'écouterait-il ? » L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon. » Je fais de toi comme si tu étais Dieu pour le Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les fils d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai mes mains sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites. Moïse et Aaron agirent exactement comme l'Éternel le leur avait ordonné. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils s'adressèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous parle et vous dit, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon, cela deviendra un reptile. » Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon et agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs et cela devint un reptile. Mais le Pharaon appela ses sages et des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs pratiques occultes. Tous ils jetèrent leurs bâtons qui devint des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse à Aaron comme l'avait dit l'Éternel. Nous allons maintenant chanter un deuxième chant dans le recueil, cette fois le numéro 19. 19. Dieu règne en juste roi. Parce que l'apôtre Paul, il revient sur ces événements de Moïse et de Pharaon, et par l'inspiration du Saint-Esprit, il nous en donne le sens. Verset 11, chapitre 9. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Il parle de la naissance de ses jumeaux Jacob et Ésaü. N'avaient fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui l'appelle, il fut dit à Rebecca, leur maman, l'aîné sera asservi au plus jeune, inversement de la coutume. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé, dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Avant de passer au message, nous allons chanter un chant de plus dans le recueil, le 245.
Alors c'est le moment pour l'école du dimanche, c'est l'américaine. Et pour vous qui restez, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles donc dans le livre de l'Exode, mais cette fois au chapitre 9, le verset 13. On va faire un grand bond en avant aujourd'hui. Vous allez voir. Exode 9, verset 13. Juste le temps de vous expliquer que ce matin, donc on va s'intéresser à un récit qui est extrêmement connu, c'est les 10 plaies d'Égypte, mais qui malheureusement a été aussi un récit extrêmement long, parce que ça couvre 4-5 chapitres de la Bible, c'est plusieurs pages dans la Bible, donc c'était un peu difficile de savoir pour moi par où commencer, qu'est-ce qu'on va voir ensemble. Et donc du coup je vous ai fait un petit tableau, que je vais vous distribuer maintenant, auquel je vais me référer de temps en temps pendant le message, et surtout que vous pourrez utiliser peut-être qu'aujourd'hui. Que vous pourrez peut-être utiliser si jamais aujourd'hui vous avez un peu de temps, ça vous prendra une trentaine de minutes de lire toutes les 10 plaies. Ça peut vous servir un peu de guide dans votre lecture, vous aider à savoir quoi faire de ces plaies. Je vous explique ça dans un instant. Mais donc j'ai demandé à David de nous lire ce passage au chapitre 7 parce qu'il plante le décor vraiment de ce récit des 10 plaies. On a vu donc Moïse et Aaron se présentent devant le pharaon, ils lui disent laisse partir le peuple d'Israël que le pharaon retenait en esclavage. Dieu opère un signe, un prodige au travers de Moïse et Aaron pour bien montrer qu'il est avec eux, que c'est lui qui les envoie. Seulement, on l'a vu, les magiciens égyptiens font pareil. Du coup, le pharaon endurcit son cœur, c'est-à-dire qu'il s'obstine dans le mal, refuse de laisser partir le peuple. Et ça continue comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de là, Dieu va envoyer 10 plaies et à chaque fois, le pharaon s'endurcit. Donc vous avez la liste ici, si vous regardez sur votre tableau. Dans la première colonne, la liste des 10 plaies. Tout d'abord, c'est l'eau du Nil qui se transforme en sang. Et puis, vous avez une série d'invasions. Les grenouilles, tout d'abord, les moustiques, des mouches venimeuses. Et puis ensuite, c'est le bétail qui est frappé par une peste. Ensuite, c'est les êtres humains eux-mêmes qui sont frappés par des ulcères. Puis, c'est la grêle et la foudre qui s'abattent sur le pays d'Égypte. On a encore une invasion, des sauterelles cette fois. Et ça se termine par les ténèbres qui s'abattent pendant 3 jours sur le pays d'Égypte. Donc voilà les 9 plaies qui servent, on pourrait dire, de préambule à la 10e et dernière plaie, la mort des premiers-nés, dont on ne va pas parler aujourd'hui, qu'on regardera ensemble la prochaine fois. Et donc ces 9 plaies qui nous intéressent aujourd'hui, vous le voyez, elles forment des groupes de 3, c'est pour ça que j'ai mis des couleurs. Il y a plusieurs choses qui nous le disent. Si vous regardez les 2 premières colonnes, tout d'abord, le lieu où la rencontre entre Moïse et Aaron et le pharaon a lieu. Dans chaque triade, la première fois, la rencontre est un acte public qui a lieu au bord du Nil. Donc c'est vrai pour la première, c'est vrai pour la quatrième, c'est vrai pour la septième. À chaque fois, la deuxième de chaque triade, cette rencontre est un entretien privé qui a lieu chez le pharaon. Donc c'est vrai pour la deuxième, pour la cinquième, pour la huitième. Et dans le dernier cas, on ne sait pas où ça a lieu. Et si vous regardez maintenant l'initiative, dans la première triade, l'initiative de la plaie est prise par Aaron à chaque fois. C'est Aaron qui lève le bras, c'est Aaron qui frappe de son bâton et l'eau du Nil se transforme en sang, etc. Dans le deuxième, c'est l'Éternel qui agit. Et dans la dernière triade, c'est Moïse qui lève le bras, qui tend le bâton, etc. Et puis si vous regardez encore simplement de manière plus générale, vous verrez que les premières plaies, la première triade, ça concerne, elles proviennent de l'eau. Alors que dans la deuxième triade, ça touche la terre. Et dans la dernière triade, ça provient du ciel. On reviendra sur tout ça. Mais ce que ça nous montre, et je m'arrête pour le moment avec mon tableau ici, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a une structure aux plaies et il y a une progression dans les plaies, dans le récit. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure du message, j'y reviendrai donc au fur et à mesure. Mais c'est à cause de ça, à cause de cette progression, que j'ai choisi qu'on lise ensemble et qu'on s'arrête plus en détail sur la septième plaie, donc la grêle, parce qu'il aura fallu deux cycles de plaies extrêmement violentes qui s'abattent sur les Égyptiens pour qu'enfin Moïse et Aaron aient toute l'attention du Pharaon et que Dieu explique enfin, dans la manière la plus complète qui soit, la raison pour laquelle il a envoyé ses plaies. Et donc c'est ce passage qu'on va lire maintenant ensemble, Exode 9, à partir du verset 13. Donc rappelez-vous qu'on est dans ce mouvement-là, hein, c'est la septième plaie du cycle, il en reste encore deux après. Exode 9, verset 13. « L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies ou la pleine force de mes plaies contre ta personne, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si maintenant j'avais étendu ma main et si je t'avais frappé par la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, au contraire, afin de te faire voir ma force et pour que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu fais encore obstacle à mon peuple, et si tu ne le laisses pas partir, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle, si accablante qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Fais donc mettre en sûreté ton cheptel et tout ce qui est à toi dans la campagne. La grêle tombera sur tous les hommes et sur toutes les bêtes qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été rassemblées dans les maisons, et ils mourront. Ceux des serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer en hâte dans les maisons leurs serviteurs et leurs cheptels. Mais ceux qui ne prirent pas à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs cheptels dans la campagne. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les bêtes et sur toute l'herbe des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya le tonnerre et la grêle, et le feu descendit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était si violente qu'il n'y en avait pas eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans la campagne, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toute l'herbe des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle. Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit « Cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste et moi et mon peuple qui avons tort. Intercédez auprès de l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle, je vous laisserai partir et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit « Quand je sortirai de la ville, je tendrai mes mains vers l'Éternel, le tonnerre cessera et il n'y aura plus de grêle afin que tu reconnaisses que la terre est à l'Éternel. » Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que le lin était en fleur. Le froment et l'épeautre n'avaient pas été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez le Pharaon et hors de la ville, il tendit ses mains vers l'Éternel. Le tonnerre et la grêle cessèrent et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Le Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas partir les Israélites, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Et je lis encore deux versets au début du chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon, car c'est moi qui endurcis son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait apparaître chez eux. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Voilà, jusqu'ici cette lecture dans la parole de Dieu. Vous vous rappelez peut-être que la toute première confrontation entre Moïse et le Pharaon n'est pas celle que David nous a lue tout à l'heure en Exode 7. La toute première confrontation, ce n'est pas ça. On avait été témoin de cette première confrontation la dernière fois, quand on avait examiné le chapitre 5, les versets 1 et 2. Je vous invite juste à venir voir avec moi ce passage-là, en Exode 5, versets 1 et 2, ce passage qu'on avait étudié ensemble la dernière fois. Exode 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon, donc c'est la première fois qu'ils sont devant lui, et ils lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Et le Pharaon répondit, écoutez bien, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël ?» Ça, c'est l'élément déclencheur des dix plaies. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Les dix plaies sont en fait une réponse à cette question du Pharaon. Qui est l'Éternel pour que nous lui obéissions? Pourquoi est-ce que nous devrions obéir à Dieu? Il faut bien comprendre que le Pharaon n'avait pas de difficulté à croire en Dieu, il n'était pas athée dans ce sens-là. Les Égyptiens avaient beaucoup de dieux dans lesquels ils croyaient. Mais la question, ce n'est pas ça le sens de son interrogation. Le sens de son interrogation, c'est ce qu'on pourrait entendre de la part de beaucoup de nos contemporains aussi, c'est de dire « j'ai mes dieux, j'ai ma spiritualité, merci, pourquoi est-ce que je devrais obéir au Dieu de la Bible ?» Et c'est une question importante à nous poser aussi pour nous en tant que chrétiens, pourquoi devrions-nous obéir à Dieu et à tout ce qu'il nous commande? Parce que c'est facile d'obéir à Dieu quand ça ne nous coûte pas trop, et de garder certains domaines de notre vie où on reste maître. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans votre vie où vous savez très bien que Dieu n'a pas réellement le dernier mot? Je suis sûr qu'il y en a. Eh bien, ce qu'on apprend dans les pages qui suivent, et vous pouvez retourner donc maintenant en Exode 9, verset 13, c'est que nous devons obéir à Dieu parce qu'il est seul juge sur toute la terre. Et ça, c'est l'idée maîtresse. Il est seul juge sur toute la terre. Et moi, je vais décliner cette idée principale en trois points. Nous devons obéir à Dieu, premièrement, parce qu'il se fait connaître par ses jugements. Deuxièmement, parce qu'il est juste dans tous ses jugements. Et troisièmement, parce qu'il sauve au travers du jugement. Premièrement, c'est deux un peu plus longs points. Le dernier, c'est vraiment très court, vous allez voir. Donc rassurez-vous si je mets un peu de temps à arriver au dernier point. Ensuite, ce sera assez rapide. Premièrement, Dieu se fait connaître par ses jugements. Est-ce que vous êtes demandé, pourquoi 10 plaies finalement? Pourquoi est-ce qu'une seule n'a pas suffi? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu balayer ses ennemis d'un seul coup? Pourquoi 10? Eh bien la réponse nous est donnée au chapitre 9, verset 15, regardez. En tout cas une partie de la réponse. Dieu dit, si maintenant j'avais étendu ma main, et si je t'avais frappé par la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Autrement dit, une plaie aurait suffi. Mais, verset 16, je t'ai laissé subsister, au contraire, afin de te faire voir ma force et pour que l'on publie mon nom par toute la terre. C'est pour que l'on publie son nom, c'est pour se faire connaître que Dieu a envoyé ses jugements un à un. Et c'est un refrain qu'on trouve tout au long des dix plaies. Si vous regardez rien que dans ce passage, verset 14 par exemple, encore une fois, « Cette fois, dit Dieu, je vais envoyer toutes mes plaies contre ta personne, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Au chapitre 10, verset 2 encore. « C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait apparaître chez eux, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Vous voyez? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que lorsqu'on réfléchit aux années passées, aux années qui sont écoulées, il y a certaines années qui se démarquent, qui restent vraiment ancrées dans notre mémoire, beaucoup plus que d'autres. Et je suis sûr que c'est vrai plus on avance en âge aussi. Et je suis sûr que vous arrivez à vous rappeler peut-être de l'année où vous êtes marié, peut-être de l'année où vous êtes devenu chrétien, peut-être d'une année où vous avez, vous ou quelqu'un de votre entourage a vécu quelque chose de très difficile. Et c'est pareil dans la mémoire commune d'un pays, vous êtes d'accord? 1914, 1939, c'est des années qui sont extrêmement chargées de sens, particulièrement en France, alors qu'il y a d'autres dates qui ne disent absolument rien. Vous pouvez penser à plein de dates, 1948, j'espère, 1967, j'espère que ce n'est pas l'année de naissance de quelqu'un d'entre vous ici, mais moi ça ne me dit rien, en tout cas forcément je n'étais pas né. Et vous voyez, donc il y a des années qui nous marquent comme ça, et j'ai envie de dire, les Égyptiens n'ont pas oublié cette année très rapidement. Les spécialistes pensent que les 9 plaies sont abattues sur l'Égypte pendant une période d'à peu près 9 mois à une année. Ça les a marqués, et c'était justement le but, qu'ils reconnaissent que l'Éternel est seul juge sur toute la terre. Et on a un bel exemple ici de personnes qui finissent par reconnaître l'Éternel, et c'est marrant parce que c'est les magiciens égyptiens eux-mêmes. Si vous regardez le tableau que je vous ai donné, dans la quatrième colonne, vous verrez que dans un premier temps, les magiciens sont capables d'imiter la plaie. Ils arrivent à transformer l'eau en sang, ils arrivent à faire apparaître quelques grenouilles, sauf que quand on arrive à la troisième plaie, c'est terminé. Et on lit dans ce passage-là, c'est Exode chapitre 8, versets 14 à 15, écoutez bien, que les magiciens employèrent leurs pratiques occultes pour produire les moustiques, mais ils ne le purent pas. Alors les magiciens dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Et le cœur du Pharaon s'endurcit. Alors, ça va rien changer dans leur relation vis-à-vis de Dieu, parce que si vous regardez la suite, dans la deuxième triade, ils sont simples spectateurs des plaies, et ils finissent même par être victimes eux-mêmes de la plaie, à tel point qu'ils ne peuvent même plus se présenter devant Aaron et Moïse. Et à la fin, ils ont complètement disparu des radars. On les voit plus. Donc, mais même si, si vous voulez, ça ne change rien dans leur relation vis-à-vis de Dieu, ils ont reconnu, c'est le doigt de Dieu. C'est lui le juge sur toute la terre. Ce qu'il faut savoir juste, et c'est vraiment juste une petite parenthèse ici, mais c'est que une des autres raisons pour lesquelles il y a 10 plaies et pas une seule, c'est probablement qu'à chaque plaie se rapporte un ou plusieurs dieux égyptiens. Alors je vous ai mis la liste, je ne vais pas insister là-dessus, parce que ce n'est pas le plus important, mais vous pouvez regarder dans la cinquième colonne. C'est comme si Dieu entrait en polémique avec les dieux égyptiens, avec ces faux dieux, et que un à un, ils montrent qu'ils sont totalement impuissants, parce qu'ils s'attaquent précisément aux domaines sur lesquels ils sont censés régner. Juste un exemple, ils frappent le Nil, qui se transforme. Le Nil qui était considéré comme un dieu par les Égyptiens, le Nil se transforme en sang, il est mort. Voilà, on pourra insister là-dessus, mais je vais pas le faire. Vous pourrez regarder ça plus tard. Ce que ça nous indique, et c'est ça qui est important, c'est qu'en envoyant ses plaies contre l'Égypte, Dieu cherchait à se faire connaître. Et ce qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est pourquoi est-ce que Dieu se fait connaître par ses jugements? Par ses jugements, et pas simplement par ses actes de miséricorde, par son amour, par sa bonté, mais par ses jugements. Et la réponse à ça, c'est que si Dieu se fait connaître par ses jugements, c'est que ses jugements jaillissent de son caractère, de qui il est. Un Dieu d'amour, oui, mais un Dieu de justice aussi. Beaucoup de gens aujourd'hui peuvent tout simplement pas accepter l'idée d'un Dieu qui juge, un Dieu qui se met en colère. C'est parfois dur pour nous aussi de lire des passages comme cela, n'est-ce pas? Tant qu'on parle d'un Dieu comme de Dieu comme d'un père bienveillant, un Dieu d'amour, tout va bien. Mais comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut être un Dieu qui juge aussi? S'il était tellement bon, est-ce qu'il ne devrait pas simplement accepter et pardonner tout le monde? C'est ce que beaucoup de personnes pensent aujourd'hui, mais il ne faut pas croire que c'est aujourd'hui seulement qu'on a des problèmes avec cette notion de jugement. C'était le cas depuis toujours, au 1er siècle déjà, et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, un homme qui s'appelait Marcion faisait une espèce de coupure entre, soi-disant, le Dieu violent de l'Ancien Testament, assoiffé de sang, sanguinaire, etc., qu'il rejetait, pour lui ce n'était pas le vrai Dieu, et le Dieu du Nouveau Testament, qui était pour lui le vrai Dieu, qui s'est révélé en Jésus-Christ, qui nous enseigne de tendre l'autre joue, etc. Et vous remarquerez que ce n'est pas très différent des personnes aujourd'hui qui acceptent Jésus comme un grand maître de morale, mais qui ne veulent surtout pas entendre parler d'un Dieu qui juge. Et Déjà à l'époque, un père de l'Église qui s'appelait Tertullien lui a répondu à Marcion en lui disant ceci, et je vais juste vous lire ce qu'il dit parce que c'est très important et vous allez voir comment ça s'applique à nous dans un instant tout de suite. Écoutez bien. Tertullien lui a dit qu'un Dieu exclusivement bon, comme l'est le Dieu de la Bible, ne peut conserver son caractère qu'à la condition d'être l'ennemi du mal, d'extirper le mal pour protéger le bien. Et il ajoute que Marcion s'est inventé, on pourrait dire c'est vrai pour tous ceux qui refusent un Dieu, qui jugent, Marcion s'est inventé un Dieu plus commode, un Dieu qui ne s'offense pas, qui ne s'irrite pas, qui ne se venge pas, un Dieu dans l'enfer duquel aucune flamme n'existe, mais que du coup, écoutez bien, il se retrouve avec un Dieu qui défend le crime. Oui, il juge le mal, mais juste en ne désirant pas le mal. Oui, il condamne le mal, mais juste en l'interdisant. En fait, il autorise le mal en ne le réprimant pas, il l'absout en ne le punissant pas. Écoutez encore, il craint de condamner ce qu'il accuse. Il craint de haïr ce qu'il désapprouve. Il permet après l'acte ce qu'il a défendu auparavant. Vous voyez quelle sorte de Dieu on se retrouve? Un Dieu faible qui n'est même pas prêt à faire respecter ses lois. Un Dieu qui défend le crime. Et voilà comment Tertullien conclut. Il dit, une pareille bonté ou un tel Dieu d'amour qui n'est pas un Dieu de justice n'est qu'un rêve, une sauvegarde assurée pour le crime. Alors, je m'excuse, c'est une longue citation. Mais vous voyez ce qu'il est en train de dire, ça s'applique totalement à nous. Si Dieu ne se met pas en colère contre l'injustice et contre la tromperie qu'on voit tout autour de nous, qu'on subit nous-mêmes, est-ce qu'il ne vous arrive pas de subir des injustices, peut-être d'être harcelé au travail parce que suite à un conflit avec un collègue ou votre chef qui vous rend simplement maintenant la vie misérable, ou est-ce qu'il vous est jamais arrivé qu'un de vos proches interprète mal certains de vos actes, certaines de vos paroles et vous prête des intentions mauvaises qui ne sont pas du tout les vôtres, mais que du coup la relation est brisée et tout le monde pense que c'est de votre faute, que vous êtes coupable, vous rejette, vous critique. On vit plein d'injustices, n'est-ce pas? Si Dieu ne se mettait pas en colère contre l'injustice, et plus grave encore, s'il ne mettait pas un terme définitif à la violence qu'on voit partout autour de nous dans le monde, comme le fait le Dieu de la Bible par son jugement, il ne serait pas digne de nos louanges. Ce ne serait pas un Dieu d'amour. Est-ce qu'il vous arrive de penser à toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui meurent dans des conflits armés, ça peut être dans les Balkans, ça peut être en Syrie aujourd'hui, toutes les personnes qui ont vu leur famille décimée, leur pays décimé, vous le diront, un Dieu d'amour ne peut que être un Dieu de justice aussi. Et c'est exactement comme ça que Dieu se fait connaître par ses jugements sur l'Égypte. Il est le Dieu qui abaisse l'orgueilleux, Pharaon, et qui élève l'opprimé. Il est le Dieu qui a l'injustice en horreur. Et ses jugements ne sont pas du tout arbitraires. Comme s'il était un Dieu simplement assoiffé de sang. Pensez simplement juste à la première plaie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Nil s'est transformé en sang. Comme pour réclamer le sang des bébés juifs innocents que le Pharaon avait ordonné qu'on jette dans le Nil. Dieu rétablit le droit, ni plus ni moins. Comme il le fera encore au dernier jour, lorsqu'il jugera toute la terre cette fois, et pas seulement la terre d'Égypte. Et je crois que cette réalité s'applique à nous de deux manières. La réalité du jugement de Dieu. Premièrement, si Dieu est juge sur toute la terre, nous devons nous préparer à comparaître devant lui. Est-ce que c'est une pensée qui est présente à votre esprit, qu'un jour nous allons devoir nous présenter devant Dieu et rendre compte? Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Arrêtons cette absurdité selon laquelle Jésus est un grand maître de morale. Personne n'a plus parlé du jugement que Jésus. Il dit par exemple, en Matthieu 12, écoutez bien, c'est Jésus qui parle, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Parce que c'est de l'abondance du cœur que l'on parle. Et il ajoute, tout ce qui est caché dans notre cœur paraîtra au grand jour et tout ce qui est secret sera mis en pleine lumière. Est-ce que la réalité du jugement imminent de Dieu ne devrait pas transformer notre manière de vivre au quotidien, notre manière de décider nos priorités, de ce qui remplit notre esprit, de ce qui remplit nos conversations même, etc., etc. C'est la première chose. Si Dieu est juste sur toute la terre, nous devons nous préparer à comparer devant lui. Puis deuxièmement, si Dieu est juste sur toute la terre, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Et ça, c'est extrêmement important. Et si, c'est ce que j'essayais de vous montrer tout à l'heure, si justice ne sera pas faite au dernier jour, si Dieu n'est pas un Dieu de jugement, on va se faire justice nous-mêmes. C'est exactement ce que Tertullien disait, vous vous souvenez, il disait « Un tel Dieu qui ne juge pas, c'est une sauvegarde assurée pour le crime. » Mais pour nous qui croyons dans le Dieu de la Bible, qui se fait connaître par ses jugements aussi, et pas que par ses actes de miséricorde, on peut simplement se reposer en lui. Je ne sais pas si vous arrive, quand vous regardez les nouvelles, ça peut être ça, ou quand vous regardez simplement ce qui se passe autour de nous, est-ce qu'il n'arrive pas d'être écrasé par l'injustice qu'on voit autour de nous? C'est les malhonnêtes qui s'enrichissent, c'est les innocents qui meurent. On vit dans un monde totalement injuste. Mais rien de tout ça ne sera oublié. Dieu sait et Dieu jugera. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous qui vivons et qui connaissons un tel Dieu. C'était le premier point. Nous devons obéir à Dieu parce qu'il se fait connaître par ses jugements. Deuxièmement, nous devons lui obéir parce qu'il est juste dans tous ses jugements. Et j'insiste là-dessus, il est juste dans tous ses jugements. Parce qu'il y a quelque chose de très troublant dans ces versets qui pourrait nous amener à croire le contraire. Regardez le verset 19. Vous voyez, verset 19, Dieu annonce son jugement, mais il donne un avertissement au Pharaon. Il lui dit, fais donc mettre en sûreté ton cheptel et tout ce qui est à toi dans la campagne. La grêle tombera sur tous les hommes et sur toutes les bêtes qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été rassemblées dans les maisons et ils mourront. Et on voit par la suite que le Pharaon n'écoute pas l'avertissement de Dieu. Il s'obstine, versets 34 et 35, regardez. Le Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et ne laissa pas partir les Israélites, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Mais regardez le verset qui suit. Vous avez vu ? L'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur. Vous voyez ce qui est troublant ici? Est-ce que c'est le Pharaon qui a endurci son cœur? Ou est-ce que c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon? Et si c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon, pourquoi est-ce qu'il lui donne un avertissement? Est-ce que c'est pas injuste? C'est pas même pervers de la part de Dieu de donner un avertissement à quelqu'un dont il sait très bien qu'il ne va pas écouter son avertissement parce qu'il lui a endurci le cœur? Vous voyez le genre de questions qu'on peut se poser quand on lit ces versets? Et c'est exactement à ces questions que Paul pense quand il aborde ce sujet en Romains 9. Et on ne va pas retourner dans ce passage, mais rappelez-vous ce que Paul dit. Il dit que Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est-à-dire qu'il est totalement souverain, tout se passe selon son plan, rien ne lui échappe. Mais Paul ajoute, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Certes non. Pourquoi? Parce que Dieu contrôle toutes choses, oui, mais de telle manière à ne pas porter atteinte au libre choix et la responsabilité des hommes. La souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine ne sont jamais opposées dans la Bible, elles sont toujours superposées. Comment est-ce que Dieu a endurci le cœur du Pharaon? J'ai envie de dire, simplement en le laissant suivre le penchant naturel de son cœur mauvais et suivre le cours du péché jusqu'à la destruction. Si vous regardez le tableau encore une fois, dans la septième colonne, je vous ai mis quelques références à l'endurcissement, elles ne sont pas toutes là. Mais vous remarquerez qu'il semble que dans un premier temps, l'insistance est beaucoup plus sur le fait que c'est le Pharaon qui endurcit son cœur, qui s'obstine, mais qu'à partir de la moitié, ça bascule, et que l'insistance est beaucoup plus sur le fait que c'est l'Éternel qui endurcit son cœur. Comme si, passé un certain point, Dieu livre simplement le Pharaon à son péché, et au penchant mauvais et au désir mauvais de son cœur. Mais le Pharaon est responsable du début à la fin de ne pas avoir écouté les avertissements de Dieu et de s'être détourné de son péché. Dieu est 100% souverain sur toute chose, c'est la cause ultime de tout, mais nous sommes 100% responsables de nos actes. C'est une réalité, comme j'aime à le dire, à 200%. Et je vais juste prendre une illustration pour nous aider à comprendre. C'est une illustration, donc elle est imparfaite, mais peut-être ça peut nous aider un peu à comprendre ce que je veux dire par là. Imaginez Pensez à un cercle et à un carré. Pour nous, c'est deux formes qui s'opposent. On ne peut pas s'imaginer un cercle carré ou un carré circulaire. Parce qu'on est en 2D, on est sur une surface plane. Mais imaginez maintenant un cylindre. Si vous regardez le cylindre depuis en haut, vous avez quoi comme forme? Vous avez un cercle. Si vous regardez le cylindre depuis le côté, vous avez quoi comme forme? Vous avez un carré. Quand on regarde en 3D, on a une sorte de carré circulaire ou de cercle carré. Alors c'est une illustration imparfaite bien sûr, mais c'est juste pour nous montrer que à quelque part, nous voyons la réalité, nous, en deux dimensions. Dieu, lui, la voit en trois dimensions. Il est totalement souverain sur toute chose, mais il nous tient responsables de nos actes parce qu'à aucun moment, il nous pousse à la révolte contre lui. À aucun moment, il nous empêche d'entendre ses avertissements et de nous repentir et de nous tourner vers lui. Dieu est juste dans tous ses jugements. Est-ce que nous réalisons vraiment que c'est par pure grâce que nous avons été sauvés? Que sans la miséricorde de Dieu, on ne serait pas différent du Pharaon. Entêté dans notre péché, dans la révolte contre Dieu. Est-ce que notre vie correspond à la grâce que Dieu a manifestée envers nous? Est-ce que nous vivons dans une reconnaissance vraiment constante en voyant ce que Dieu a accompli pour nous par pure grâce? Le salut ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Bien, Dieu est juste dans tous ses jugements, et il est d'autant plus juste que ses jugements s'abattent naturellement sur nous lorsque nous lui désobéissons. Et il faut juste que vous armiez un tout petit peu de patience, on est presque au dernier point, et c'est vraiment juste une conclusion, mais ça c'est le point le plus important maintenant. Je vais juste vous expliquer ce que j'entends par « naturellement ». Il ne vous aura pas échappé que les plaies sont finalement assez naturelles. Elles ne sont pas si surnaturelles, si miraculeuses que ça. Il n'est pas étonnant, vous voyez, si l'eau du Nil est infectée, que c'est tout l'écosystème du Nil qui part en vrille. On peut très bien s'imaginer pourquoi les grenouilles ont quitté les rives du Nil pour aller envahir les habitations. On peut très bien s'imaginer, enfin, on peut très bien comprendre que l'eau stagnante que plus personne ne peut boire, c'est l'endroit parfait pour que des moustiques et des mouches se reproduisent et aillent ensuite répandre les épidémies sur le bétail, ensuite sur les hommes. Et ça, vous voyez, c'est assez naturel en fait. Alors, me comprenez pas mal, les plaies sont des miracles, des actes surnaturels de Dieu parce que ça se produit en un instant, sous les yeux du Pharaon, au commandement de Moïse et Aaron, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si Dieu avait voulu vraiment que sans l'ombre d'un doute, le Pharaon sache qu'il est Dieu, qu'il avait sa main sur le pays d'Égypte, il aurait pu faire autrement. Il aurait pu donner des super pouvoirs à Moïse qui serait allé vers le Pharaon, il aurait changé 2-3 magiciens en grenouilles en disant au Pharaon le tel prochain si tu ne nous laisses pas partir, et c'était bon, c'était réglé. Mais le fait que Dieu n'a pas agi de cette manière-là et que les plaies sont des phénomènes finalement assez naturels, ça nous apprend quelque chose d'extrêmement important. Exode, chapitre 7 jusqu'au chapitre 11, c'est une destruction de ce qui a été créé en Genèse 1 et 2. C'est une décréation de la terre. En tout cas, de la terre d'Égypte. Les 10 plaies, si vous voulez, c'est la nature qui devient folle, qui se dissout. C'est la nature qui se dévore elle-même, qui se brise, jusqu'à revenir au chaos informe et vide du départ. Vous vous rappelez en Genèse 1 et 2, à partir du chaos informe et vide, des ténèbres, Dieu a créé les plantes, les animaux, les êtres humains, la lumière, l'eau, etc. Et il transforme tout ça en un monde de beauté, d'harmonie, de justice, de lumière, d'ordre. C'était très bon, nous dit Dieu, à la fin de la semaine de création. Mais ici, chaque jour de la création est décréé. Les éléments se déchaînent, les éléments du ciel, les éléments de la terre, de l'eau, les éléments se déchaînent et détruisent les animaux détruisent les plantes, jusqu'à ce que les ténèbres s'abattent pendant 3 jours sur la terre. Le pays d'Égypte est laissé complètement nu, vide. Il y a même un truc qui est finalement assez drôle, je sais pas si, enfin, moi je trouve ça assez drôle, c'est verset 31, on apprend que la grêle a touché finalement que le lin et l'orge. Il reste après la grêle du froment et de l'épeautre, seulement pas de chance, c'est ce que les sauterelles vont manger juste après. plus rien ne pousse, c'est le chaos. Et ce que Dieu est en train de nous dire par là, c'est qu'il est le créateur. Ce qu'il ordonne, ces lois auxquelles il nous demande d'obéir, elles ne sont pas arbitraires. C'est comme s'il est en train de nous dire, quand je te dis comment vivre, c'est parce que c'est moi qui sais. C'est moi qui ai le manuel du fabricant. Me désobéir, c'est déchaîner le chaos dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà expérimenté lorsque, par exemple, vous avez laissé, ça peut être votre travail, ça peut être votre famille, ça peut être quoi que ce soit d'autre, prendre la première place dans votre vie, le chaos. Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Autrement dit, rien ne doit être plus important dans ta vie que moi. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait du travail, par exemple, le centre de notre vie? On accepte toujours plus de pression, on s'en met toujours plus, on se désintègre petit à petit psychiquement, c'est notre famille qui en souffre, on finit par se désintégrer physiquement même, c'est le corps qui ne suit plus, on retourne à la poussière. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait de la famille le centre de notre vie? On finit par rechercher dans le regard des nôtres ce qu'on devrait chercher plutôt dans le regard de Dieu. Et on finit soit par leur en demander trop, on les étouffe, ou alors on est dévasté parce qu'ils ne nous donnent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à nous donner tout l'amour et l'attention qu'on veut, et les relations se désintègrent, on retourne à la poussière. Dieu nous dit, c'est qu'un exemple, mais que la sexualité c'est dans le cadre du mariage, un homme et une femme pour la vie, qu'est-ce qui se passe quand on désobéit? Les familles se brisent, c'est la jalousie, l'amertume, et ainsi de suite. Les conséquences de notre désobéissance sont parfaitement justes parce qu'elles sont naturelles. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça, mais il faut que j'avance, vous avez compris ce que je veux dire par là. Dieu est parfaitement juste dans ses jugements. Troisième point, donc on doit obéir à Dieu parce qu'il se fait connaître par ses jugements, il est le juge devant qui nous devons rendre des comptes, nous devons obéir à Dieu parce qu'il est juste dans ses jugements, il est le créateur, il sait ce qui est bon pour nous. Troisièmement, donc nous devons obéir à Dieu parce qu'il sauve au travers du jugement. Et c'est ce qu'il ne faut absolument pas rater. Il faut vraiment, David l'a mentionné tout à l'heure, il ne faut absolument pas rater ce point-là. Parce que si on s'arrêtait aux deux premiers points, on finirait par obéir à Dieu par crainte du jugement, ou par crainte des conséquences de notre désobéissance. Et ce n'est pas du tout l'obéissance que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous lui obéissions par amour et avec reconnaissance. Et donc, il ne faut pas rater ce dernier point. Rapidement. Dieu a frappé l'Égypte de ses plaies dans le but de sauver les Hébreux, bien sûr, tout d'abord, de l'esclavage, mais les Égyptiens aussi, ceux qui ont écouté l'avertissement de Dieu et qui ont obéi. Regardez le verset 20, on les voit au verset 20. Ceux des serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer en hâte dans les maisons leurs serviteurs et leurs cheptels. Et si vous regardez encore une fois sur le tableau, une dernière fois cette fois, vous voyez, on a la dernière colonne, on arrive au bout. Vous remarquerez que dans la première triade, tout le monde est victime de la plaie, il semble, tant les Égyptiens que les Israélites. À partir de la deuxième triade, Dieu fait une distinction entre son peuple et les Égyptiens. Et c'est seulement les Égyptiens qui sont frappés par la plaie. Mais à partir de la dernière, donc où on se trouve maintenant, c'est seulement les Égyptiens endurcis dans leur péché que Dieu juge. À la fin, on le voit, Dieu épargne les Égyptiens qui reconnaissent le doigt de Dieu et qui lui obéissent. Donc Dieu sauve au travers du jugement. Et pensez bien que, en pensant à ces dix plaies, pensez bien que des siècles plus tard, les ténèbres sont à nouveau venues sur la terre. Encore une fois, la création est retournée au chaos informe et vide. La terre a tremblé, les rochers se sont fendus, les tombeaux se sont ouverts. À la croix, Jésus est devenu l'ennemi de Dieu. Il a été percé, vous rappelez, de l'eau et du sang ont coulé. Le fils premier-né est mort. Encore une fois, Dieu a fait tomber sa foudre, sa grêle, le feu de la colère de Dieu est tombé, mais sur lui-même, sur Jésus, pour que nous puissions être sauvés au travers de son jugement. Et il y a quelque chose, déjà dans ce passage-là, qui aurait dû lui dire au Pharaon, qui pouvaient être sauvés au travers du jugement. Déjà lui, regardez, c'est une toute petite phrase qui revient deux fois, qui nous l'indique. C'est tout d'abord au verset 29, lorsque le pharaon a demandé à Moïse d'intercéder pour lui en sa faveur. Verset 29, Moïse lui dit « Quand je sortirai de la ville, je tendrai mes mains vers l'Éternel, le tonnerre cessera. » Et puis le verset 33 encore, c'est la même phrase. Moïse sortit de chez le pharaon et hors de la ville, il tendit ses mains vers l'Éternel, le tonnerre et la grêle cessèrent et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Vous voyez l'insistance dans ces deux versets, c'est sur le fait que Moïse est sorti hors de la ville. Hors de la ville, pourquoi est-ce qu'il insiste là-dessus? C'est pour nous dire qu'il est allé sous la grêle, sous la foudre, dans la tempête, là où il n'y avait pas d'abri. Il allait étendre ses mains, intercéder devant Dieu en faveur du pharaon. Et moi, je trouve que c'est une image saisissante d'un serviteur de l'Éternel qui se place lui-même sous le jugement de Dieu pour le salut des autres. Alors, bien sûr, ce que Moïse a fait là, c'est à peine comparable à ce que Jésus a fait. Lui qui est le serviteur de l'Éternel, lui qui, tout au long de sa vie, a montré que c'est lui, en fait, le juge sur toute la terre, qui a les forces du chaos et du mal, il les a maîtrisées. Les plaies avaient défait la création. Lui, il a défait les plaies. Il a calmé la tempête. Il a marché sur les eaux. Il a nourri ceux qui étaient affamés. Il a chassé les démons. Et comment est-ce qu'il a fait tout ça? Vous rappelez ce que Jésus nous dit? C'est par le doigt de Dieu. C'est par le doigt de Dieu. Et à l'image de Moïse, Jésus s'est rendu hors de la ville. Mais lui n'a pas risqué sa vie. Il l'a perdue. Il l'a perdu. Il a étendu ses mains à la croix pour le salut de son peuple. Et il a été foudroyé par le jugement de Dieu. C'est le créateur du monde qui a été décréé pour pouvoir recréer le monde par sa résurrection. C'est déjà ce qui est en train de se passer en nous aujourd'hui. Et ce que Jésus nous donne, vous voyez, c'est finalement un vrai repos du cœur pour progresser dans notre obéissance à Dieu. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de chuter encore et encore dans les mêmes, de tomber dans les mêmes travers? Avec Jésus, on n'est pas en train de se dire « Oulala, Dieu va m'avoir, Dieu va me frapper. » On est en train de se dire « J'ai déjà été jugé. Et je peux obéir maintenant avec joie et avec reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour moi, et pas dans la peur. » Et ce que Jésus nous donne aussi, et enfin, et je termine là, c'est une espérance. Je viens de le dire, par ces miracles, Dieu a fait surgir l'harmonie du chaos. Il a calmé la tempête, il a nourri les affamés, il a ressuscité les morts. Et ce qu'il nous montre par là, c'est qu'il n'est pas simplement venu sauver et emporter des âmes individuelles au ciel, il est venu restaurer le monde. La création tout entière, nous dit Paul, attend avec un ardent désir d'être libéré de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, au dernier jour, lorsque Christ reviendra. Est-ce que votre espérance va au-delà de votre salut personnel? Est-ce que vous attendez, est-ce que vous priez pour que Dieu vienne vraiment rétablir toute chose? C'est en tout cas l'espérance chrétienne. Alors, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? C'était la question du pharaon. Il est le créateur, c'est celui qui nous a fait, il sait ce qui est bon pour nous. Il est le juge sur toute la terre, devant qui nous devrons rendre des comptes. Mais il est aussi le créateur qui a été décréé. Il est le juge qui a été jugé pour nous, à notre place, pour que nous puissions dès maintenant entrer dans ce monde de beauté, de justice, d'harmonie, de lumière, de paix, qu'il voulait que ce monde soit. Voilà. Alors que le Seigneur nous vienne en aide dans les jours qui viennent, nous lui obéissions par la foi et que nous puissions réellement connaître ce monde-là qu'il aimerait que nous connaissions. Je vous encourage vraiment, je m'arrête là, et je vous encourage vraiment, si vous avez le temps aujourd'hui, à relire l'entier des plaies, à réfléchir à ce qui vient d'être dit, et à le faire aussi avec l'aide du tableau, ça peut vous donner quelques pistes. Merci.